Le Fonds de solidarité FTQ est fier de présenter Le Dérangeant. Que vous souhaitiez devenir les premiers, le meilleur ou les plus grands sur le marché, on prête main forte à des entreprises aux quatre coins du Québec. Au fond, on fait plus qu'investir. On s'investit dans vos projets. Visitez lefondsftq.com/entreprise.
Salut Carlo.
Salut Étienne, ça va?
Ça va bien toi?
Yeah.
La semaine passée, on a reçu Luc Poirier. Qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre-là?
J'ai retenu que, tu sais, moi, j'avais lu son livre, puis j'avais le persona réseaux sociaux, puis des fois, on se fait une image d'un milliardaire ou futur milliardaire, puis on a des préjugés. Je pense que la majorité des préjugés sont tombés pour moi par rapport à lui. Un gars simple, un gars crée de la valeur, pour ce que ça veut dire, là, dans le cadre des terrains, puis des immeubles, puis tout ça, sans employés. Ça, c'est une phrase que je trouve extrêmement fascinante. Quasi milliardaire, pas d'employé, crée de la valeur. Je pense que c'est comme un modèle...
Sans employé, pas le chiffre.
Non, aucun employé, c'est ça.
Ben, c'est génial, ça met la table pour ce qui s'en vient.
Ils font le tour du monde. Signent de gros contrats. Écœurent pas mal de monde. Et nous racontent tout ça. Voici les dérangeants.
Bonjour à tous, ici Étienne Crevier à l'animation pour ce nouvel épisode des Dérangeants qui sont fièrement présentés par le Fonds de solidarité FTQ et propulsés par Astérix de Québécois. Les Dérangeants, c'est quoi? C'est le podcast de la nouvelle génération des entrepreneurs au Québec où est-ce qu'on parle des vraies affaires. En fait, c'est toutes nos cicatrices qu'on a derrière le dos, c'est nos bons coups, nos mauvais coups. Comme à chaque épisode, on retient trois de nos dérangeants, soit les Dominique Gagnon, Marie-Claude Duquette ou Anne Martel, mais j'ai avec moi Louis-François Marcotte. Salut Louis.
Salut.
Salut. J'ai avec moi aussi Carlo Coccaro. Salut Carlo.
Mes hommages, Étienne.
Mes hommages. Et on a un dérangeant invité pour une première cette saison-ci. En fait, il est membre de l'OACQ. Il a, en fait, son titre d'agent, mais ce n'est pas sa seule job aussi, parce que pour appliquer à son titre d'agent, il fallait qu'il amène son diplôme d'études secondaires. Ne l'ayant pas sous la main, il a amené son diplôme de radiologue, médecin. On a avec nous Grégoire Bernèche. Salut, Grégoire.
Salut. Très belle présentation. C'est comme ça que je l'aurais fait aussi.
Ça me fait plaisir. Je pense qu'il faut faire un mini-disclose. On fait de la business ensemble, en fait.
Tout à fait.
On se connaît, on est des amis d'enfance et tu suis le podcast depuis quand même certaines saisons.
Absolument, c'est ça qui nous a remis en contact.
Je te demandais tout de suite, Grégoire, c'est comment faire des affaires avec Étienne?
Écoute, c'est pas reposant. On pourrait même dire que je comprends très bien le titre de l'émission comme ça, grâce à ça. Mais c'est ultra stimulant parce qu'Étienne, c'est un gars qui est, contrairement à moi, Étienne, c'est un vrai entrepreneur. Moi, je suis plus un homme d'affaires, qu'on pourrait dire. Donc, c'est quelqu'un qui aime défoncer des portes, qui a des idées. Moi, j'aime ça rentrer dans un sentier déjà battu puis l'optimiser. Donc, vraiment, là, je te dirais la collaboration puis la complémentarité est excellente.
Je suis un peu déçu, je voulais que tu sois bitch dans ma tête.
Ouais, c'est ça.
Continue, Étienne, là. Je n'ai pas saisi la balle au bon.
Je vais lui donner 20$ en sortant.
Puis moi, je suis tombé dans le panneau.
Écoutez, cette semaine au CA, on va quand même aborder le sujet de l'immobilier et les perspectives au Québec de qu'est-ce qui s'en vient pour 2024. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, je veux prendre de vos nouvelles, les gars. Je vais commencer avec toi, Carlo. Comment ça va?
Ça va bien, ça va bien. Moi, tout ce que je fais est lié à l'année scolaire. Puis moi, début 2024, on est dans la deuxième partie de l'année scolaire. Il n'y a pas un ralentissement, mais on dirait que les choses se placent tranquillement pour l'année. On parle souvent aux dérangeants de la Coupe Stanley. T'sais, qu'est-ce qu'on aimerait accomplir dans notre carrière d'entrepreneur? Moi, il y a deux cases que j'aimerais cocher, c'est acheter une entreprise puis vendre une entreprise. Pas que je vais mourir triste si je le fais pas, mais j'aimerais ça accomplir ça.
Mais c'est deux choses différentes.
Oui, je sais. Ben, je sais pas, mais je présume. Hein. Les concepts sont différents, mais je trouve que c'est des accomplissements. J'ai hâte d'acheter une entreprise, j'ai hâte d'en vendre une. Merci de m'avoir interrompu pour me dire que c'était deux choses différentes.
Pour moi, c'est deux veines très, très loin. C'est pour ça que je t'ai dit ça, je m'excuse.
Non, non, c'est bon. Mais donc, je pense qu'on s'enligne dans la prochaine année, les prochains 12 mois, pour certainement faire des démarches pour acquérir une entreprise en EdTech, donc technologie éducative, qui est mon domaine. Il y a une centaine d'entreprises au Québec en EdTech. Il y en a probablement juste une vingtaine qui sont vraiment rentables. Puis moi, je pense qu'il y a des perles non rentables qui gagneraient à joindre l'écosystème de grand possible pour qu'on puisse faire de la magie.
Avec la magie Coccaro, ça va tout donner. Louis-François, comment ça va?
Ça va bien, merci. J'ai une subvention.
juste pour nous mettre ça sur le nez.
Oui, non, en fait, je veux juste soulever le point, c'est qu'il y a des subventions qui existent pour le transfert d'entreprise. Donc, les gens qui sont en acquisition, surtout les jeunes, je te dirais, jeune et moins jeune, puis donc de...
Tu peux t'inclure dans moins jeune aussi. Là.
Non, j'étais encore assez jeune, je pense.
Mais jeune dans le cœur, Carlo?
Il est dans le cœur.
Jeune dans le cœur.
Oui. Ceci dit, c'est des subventions pour le transfert d'entreprise, donc pour les frais reliés à une acquisition d'entreprise ou une vente, mais c'est plus pour l'acquisition. Puis de tout le frais légal, juridique, donc ça peut aller vite, ça peut se chiffrer vite, même sur des petites transactions. Puis il existe des subventions pour ça qui sont...
C'est québécois ou Canada?
Québécois.
C'est bien hot. Puis c'est vrai que dans le fond, sinon, il y aurait bien des commerces qui ne seraient pas transférés.
Puis pas si compliqué que ça.
Bien, c'est très hot. Grégoire,
ben, comment ça va, toi? Parfait. Le ciel est clair et radieux dans le milieu de la santé et dans le réseau hospitalier.
Oui. S'il y a un endroit où ça va bien.
Oui, on est toujours très occupé de ce point de vue-là.
Tu l'as dit, les médecins ne sont pas à plaindre, là. Dans le réseau de la santé?
Non, dans le réseau de la santé en tant que tel, ben, on a tous nos enjeux, tu sais, avec le projet de loi 15, tout ça, des enjeux d'autonomie professionnelle, mais certainement, on a une super belle qualité de pratique, on fait un job humain. On aime beaucoup ça. Puis du point de vue immobilier, on peut se féliciter d'avoir acquis notre première tour de plus de 10 étages sur l'île de Montréal. Donc, merci.
Good job.
Et puis, c'est comme toujours un petit peu, on parlait de revenir dans une entreprise où tes employés ont tous changé. Bien, chaque fois qu'on acquiert un nouvel immeuble, c'est comme de rentrer dans une nouvelle business que tu connais personne. Tu connais pas bien les systèmes comme tu aimerais les connaître, même si tu essaies de faire ta meilleure due diligence possible avant. Tu connais pas les locataires, leurs habitudes, etc. C'est toujours une boîte à surprise, donc on est là-dedans, Florent. Mais c'est adorable, c'est ce qu'on aime de l'immobilier. Les
bien, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que moi, je vais faire du pouce aujourd'hui pour être dans un bon état d'esprit grâce à Louis-François, en fait, qui me ramène que le ciel est bleu, tout va bien, en fait, la neige est belle. Puis d'avoir une équipe autonome qui roule, je pense que ça, ça a pris quand même quelques années, là, surtout dans la business immobilière. Mais là, je fais vraiment un kudos à notre équipe. Je vais les nommer Margot, Camille et Camille, Martin, qui vraiment sont au bat à tous les jours. Puis on ne réalise pas comme entrepreneur à quel point que d'avoir une équipe autonome fait toute la différence. Fait que moi, c'est mon PPP. En fait, je fais ma plug à l'équipe ce matin pour notre épisode. Donc,
prépare les augmentations de salaire maintenant.
C'est ça.
Non, sont déjà faites. C'est pour ça que je me permets.
Il était prêt.
Donc, on se retrouve à l'instant, messieurs, pour le CA de cette semaine sur les tendances immobilières au Québec à 2024.
Le CA de la semaine est propulsé par Astérix, la cellule d'entrepreneuriat innovant et de capital de risque de Québécois. D'une offre de financement à des programmes d'accompagnement pour les startups, Astérix soutient les entrepreneurs bâtisseurs au facteur X proposant des solutions innovantes et durables qui façonnent nos réalités. Audace et humain avant tout, visitez astérix.vc.
Donc, avant de passer au CA cette semaine, on a un invité, en fait, qui est un habitué de l'émission. On aime ça le recevoir. Il fait partie de Kiera Capital Partners, qui est un de nos sponsors du show et qu'on aime beaucoup avoir proche de nous. En fait, Olivier Boulevard, salut.
Salut, Étienne.
Merci beaucoup. Tu es avocat de formation, en fait. Tu es aussi partner en fusion acquisition d'entreprises. Tu en as vu d'autres. Puis aujourd'hui, en fait, le sujet qui nous intéresse, c'est quand le bon moment pour vendre son entreprise? C'est quoi la question de timing? Mais avant de sauter dans le vif du sujet, peut-être juste nous rappeler qu'est-ce que Kiera Capital fait exactement?
Alors, Kiera Capital, c'est une petite banque d'affaires. On fait de l'accompagnement en fusion-acquisition et en recherche de financement pour la PME québécoise. On est 14 seniors à Montréal, à Québec, puis avec aussi un grand côté transfrontalier à nos opérations.
C'est super intéressant. Puis comme on avait déjà dit dans un autre épisode, vous êtes, je pense, la plus grande banque indépendante au Québec.
Oui, en effet, en termes de taille, d'équipe, puis de nombre de dossiers, outre les cabinets comptables et certaines banques à charte qui pratiquent aussi les opérations de fusion en question puis de financement, on est un des plus gros.
Fait qu'on ne se le cachera pas. Actuellement, on en parle, c'est sur toutes les lèvres. Est-ce qu'on va rentrer en récession? Y a-t-il un crash qui s'en vient? Fait qu'il y a une question de timing souvent dans la vente d'une entreprise qui se pose. Puis, est-ce que je devrais attendre avant de vendre? Est-ce que je devrais timer le marché? À quel point c'est important cette notion-là de timing dans la vente d'entreprise?
Bien, il y a un dicton que tu connais qui dit qu'il faut pas essayer de timer le marché. c'est certain que la synchronisation du marché est importante quand on essaie de trouver un bon moment pour vendre. Ceci dit, si on regarde les 12 et les 24 derniers mois qui ont quand même été tumultueux au niveau des marchés financiers, même malgré les marchés qui sont plus difficiles, il y a encore de belles ventes d'entreprises qui sont opérées. La synchronisation est importante, oui, mais ultimement, il y a aussi d'autres critères qui peuvent être plus ou prépondérant à la vente d'entreprise.
Fait que le timing ne vient pas dicter tout. C'est pas ça qui vient dire justement que ça coupe de 50 % le prix. Là. C'est comme il faut pas se baser que là-dessus. En fait, au contraire, c'est vraiment un petit critère vraiment minoritaire.
C'est important. C'est important, puis il ne faut pas trop l'escompter. Ultimement, la hausse des taux d'intérêt, par exemple, la hausse des taux d'intérêt fait que pour l'acquéreur, financer un achat devient plus dispendieux. Et ça veut dire qu'il doit y avoir arbitrage entre l'acquéreur et le vendeur pour savoir qui va supporter cette hausse du coût de capital. Mais pour des belles entreprises, souvent des entreprises aujourd'hui qui ont des revenus récurrents, qui ont de la croissance de revenus prévue dans le futur, des entreprises profitables, ils ont encore un beau marché et des joueurs stratégiques qui, voyant un marché un peu tumultueux, sont d'attaque pour continuer à grandir.
Ils redoublent d'efforts, puis en fait, il y en a qui sont bien capitalisés, qui ont les poches profondes, qui cherchent des bons deals encore aujourd'hui, de ce que j'entends.
Oui, tout à fait. On travaille, nous, beaucoup avec des entreprises européennes, beaucoup d'Américains, des grandes entreprises qui nous utilisent comme foot on the ground, donc comme soldats, pour essayer de lever des lapins, pour chercher à croître dans la PME québécoise, canadienne. Il y en a des belles opérations de fusion-acquisition qui peuvent arriver, même dans un marché plus difficile.
Puis, je vais revenir là-dessus parce que tu en as parlé brièvement. Tu as dit, il y a 24-36 mois, c'était un autre game. On n'était pas dans le même marché qu'on est actuellement. Puis, moi, je l'avais remarqué, j'offre plus dans les startups. C'était des valorisations de fou, là. On était vraiment ailleurs. Là, ce que tu me dis, c'est, écoute, c'est vrai que c'était un autre game, mais en date d'aujourd'hui, il y a des belles transactions. Mais est-ce qu'on est vraiment à des années-lumière de où on était il y a 24 mois?
Tu as raison qu'au final, il y a certaines industries qui ont vu leur valorisation, leur multiple ou leur façon d'évaluer les entreprises changer. C'est ce qui est le plus important, c'est qu'au final, le marché a réalisé depuis 24-36 mois que la chasse aux revenus, une chasse un peu aveugle, n'est plus aujourd'hui la bonne façon pour valoriser les entreprises. Il y a davantage un œil plus aiguisé de la part des acheteurs pour une qualité de ces revenus-là, puis aussi une profitabilité, alors que les revenus, il y a 24-36 mois, pouvaient être poussés à l'extrême par des entreprises qui devenaient au final des entreprises presque de pur marketing, malgré qu'elles étaient dans d'autres secteurs plus traditionnels.
Pas rentables du tout, mais on multipliait, on avait deux, trois fois les revenus pour se financer. Là.
On gonflait la dite balloune en espérant trouver un acheteur avant que ça crève. Aujourd'hui, les entreprises qui sont plus strictes, qui sont avec un management plus aiguisé, avec une vue sur la profitabilité plus poussée, sont celles qui survivent le mieux.
J'avais parlé avec un de mes amis qui est dans un family office et justement, il me racontait une histoire super intéressante. Il disait, nous, on ne veut plus entendre des entrepreneurs qui veulent doubler d'employés. On dit, on veut des entrepreneurs qui ont 100 employés, qui tombent à 50, mais qui font le double de revenus. Avec de l'efficience, on veut pas du revenu à tout prix, on veut de la profitabilité à tout prix. C'est ce que j'entends là.
Tout à fait, tout à fait. Puis on le voit de la part de tous les acheteurs. Les acheteurs sont là, les acheteurs vont être intéressés à trouver des acquisitions stratégiques pour les aider à grandir, mais plus à n'importe quel prix.
À quel point c'est important dans le camp vendre son entreprise, la préparation personnelle de l'entrepreneur derrière ça?
C'est super important. Vendre son entreprise, c'est un processus qui est demandant, qui peut être long, qui peut être difficile, autant du côté en temps pour l'entrepreneur, parce qu'il va devoir passer pas mal de temps à l'extérieur de son entreprise à essayer de trouver un acheteur potentiel, mais aussi en termes de ressources financières, autant légales que comptables pour préparer l'entreprise pour trouver un bon acheteur. Et puis aussi des ressources psychologiques qui sont nécessaires parce que supporter l'entrepreneur et l'accompagner dans toutes ces décisions-là, c'est une grosse partie de notre boulot comme courtier d'entreprise.
En ce moment, justement, tu pourrais dire, est-ce que tu as vu un ralentissement ou, comme tu dis, les belles entreprises ont toujours, dans le fond, de l'intérêt sur le marché puis ça fait juste changer, justement, de secteur?
Les belles entreprises, on parlait de profitabilité tout à l'heure, les belles entreprises profitables continuent à être attirantes pour les acheteurs potentiels. Et puis, dépendant aussi de l'état du marché, il y a certaines industries qui sont appelées à se consolider. Et puis, ça revient à la question de synchronisation des marchés. C'est pas nécessairement à aller trop à 30 000 pieds puis à se demander, bon, est-ce que les taux d'intérêt sont élevés? Mais regarder davantage dans sa niche, dans son industrie, de voir si justement il y a des gros joueurs qui rattrapent certains morceaux, bien, parfois, ça vaut la peine de dire, bien, allons-y, vendons l'entreprise avant d'être un joueur trop petit qui doit se battre contre des Goliaths.
Comme banquier d'investissement, est-ce que le temps que tu passes dans un dossier a changé dans les derniers mois? Est-ce que ça prend plus de temps pour un closing? Ça prend moins de temps? Comment tu vois ça, cette espèce de délai-là?
C'est une bonne question. Au final, on avait parfois des surprises de dossiers qui se règlent en 3 mois, en 6 mois.
Parce qu'il y a de l'agressivité, il y a une force justement de rapidité pour le marché de la part de l'acquéreur, là.
Tout à fait. L'argent, puis on le voit surtout au niveau des financements qu'on fait, l'argent est un peu moins présent pour tous. Il y avait de l'argent qui tombait
du ciel,
qui poussait dans les arbres, autant du niveau du gouvernement que pour les entreprises. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Ceci dit, l'objectif du courtier d'affaires, quand il accompagne l'entreprise pour une vente, c'est de créer une enchère, de créer un processus avec un timing qui est serré, où les acheteurs potentiels vont sentir une pression et l'obligation de mettre le meilleur pied devant dès le début. Mais pour nos clients, ce qu'on recommande ou ce qu'on propose comme timing de façon générale, une vente en dedans de 6 à 9 mois, c'est la moyenne.
C'est super intéressant, Olivier. En fait, pour conclure, un mot de la fin, dis-moi, qu'est-ce qu'on a à retenir du processus de quand vendre?
Alors, il faut surtout retenir qu'il est difficile de timer le marché. Je pense qu'il faut surtout se concentrer sur sa business. Il faut se concentrer sur sa business, la rendre la plus belle avec des métriques qui sont, au final, les mêmes métriques que l'entrepreneur peut avoir pour déterminer la santé financière de son entreprise. Des bons revenus, des revenus diversifiés, une profitabilité en bas de la ligne qui est importante. Et puis après ça, d'être ouvert dans son écoute du marché pour bien déterminer les opportunités qui peuvent arriver. S'il y a des consolidations, par exemple, ou s'il y a des mouvements qui font que la vente devient plus importante ou plus propice. Et puis au final, ça devient un jeu psychologique pour l'entrepreneur de se déterminer, il est temps pour lui de passer à d'autres choses, des nouveaux projets qu'il veut mettre en branle. C'est davantage de ce côté-là où il faut se concentrer plutôt que d'essayer de vendre pour le plus grand nombre de dollars.
Olivier Boulevard, associé chez Chiara Capital Partner, merci beaucoup de t'être prêté au jeu.
Merci Étienne de l'invitation.
Si on veut en savoir plus sur vos services, on va sur
chiaracapital.com. On est sur les médias sociaux aussi, sur LinkedIn. Puis on est chanceux, on a une dérangeante, Anne Martel, depuis quelques mois, qui s'est jointe à nous. Donc on est toujours là au service de la PME québécoise.
Génial, merci beaucoup. À une époque où on dit que c'est quasi impossible de rentrer dans le marché immobilier en tant que millennials ou jeunes acheteurs, que ça prend en fait un héritage pour avoir une mise de fonds, et on voit dans le fond tous les baby boomers faire des bons coups et de vraiment prendre leur retraite dorée grâce au marché immobilier québécois, on se pose la question aujourd'hui, qu'est-ce qui nous attend en 2024 avec les tendances immobilières et est-ce que c'est pensable de pouvoir avoir notre part du gâteau? En fait, je vais mettre la table d'entrée de jeu, mesdames et messieurs, surtout messieurs, on manque un peu de diversité. En 2023, en fait, il y avait encore plus de transactions dans certaines régions du Québec, mais c'est surtout la hausse de loyers dans le résidentiel qui a marqué les imaginaires. La COVID a vraiment fait des hausses à la fois des prix, elle a fait une hausse des assurances, des taxes foncières, et on se retrouve avec un 4,5 en moyenne à un prix de 1977 $ au Québec.
4,5 à 1900 au Québec?
Au Québec, c'est la moyenne du prix pour
un 4,5. Avec deux parkings, les frais d'électricité inclus.
Puis si t'es chanceux, écoute, tu vas peut-être avoir des fenêtres. Ouais. Mais en fait, moi, je serais curieux d'avoir vos expériences, chacun d'entre vous. Est-ce que, Carlo, toi, t'as-tu de l'immobilier en dehors de ta maison?
Non, zéro. Je n'ai qu'une maison, pas de chalet. Il y a quelque chose d'un peu d'un rêve, c'est pas le bon mot, mais une ambition de posséder de l'immobilier. Mais je suis pas sûr d'être fait pour ça. On s'est parlé il y a une couple de mois, toi puis moi, j'étais comme Étienne, je vais acheter un premier bloc cette année, un triplex, quadruplex, c'est quoi tes conseils? Je suis pas passé à l'action encore. Je suis pas sûr que c'est fait pour moi, ça. En tout cas, j'hésite encore, mais je pense que c'est là qu'on peut faire de l'argent. C'est en immobilier, j'y crois à ça.
T'as cette impression-là. Toi, ouais. François, t'es-tu en immobilier à part ta maison?
Oui. J'en ai roulé de l'immobilier. J'en ai pas accumulé. J'en ai acheté, j'en ai vendu, autant résidentiel qu'en commercial. Là, j'en ai encore un petit peu, mais tu sais, j'ai pas 25 portes, là.
Est-ce que chez Cheval, en fait, est propriétaire de ces bâtisses? C'est
non,
toujours locataire.
C'est un modèle que j'avais regardé pour ça, mais finalement, c'est un modèle qui, pour moi, dans le modèle restauration, est plus valable en location. C'est plus facile à ouvrir, c'est moins d'équité. C'est des formats qui coûtent moins cher en faisant ça comme ça. Il y a une stabilité aussi. Fait qu'il y a quelque chose de moins engageant n'étant pas propriétaire à la grosseur que ça a, nous, actuellement.
Si le propriétaire t'appelait, puis disait, hey, Louis-François, je veux vendre, puis je te fais un bon prix.
Bien, c'est arrivé, tu sais. Mais mon premier chez Cheval, les anciens propriétaires m'avaient contacté pour acheter. Je me disais, OK, ouais, mais il faut mettre 300 000 $ il y a ça à faire. Là, c'est un autre business. Puis je me suis dit, est-ce que je veux faire un autre chez Cheval?
Ouais. Où je veux avoir un cheval qui
est dans gérer un building de plus.
C'est une bonne question. On y reviendra parce que je pense qu'il y a des restaurateurs qui ont le modèle parce qu'eux, ils achètent automatiquement. Mais Greg, toi, en fait, on le dit d'entrée de jeu dans la présentation, t'es un homme d'affaires, t'es médecin et t'es aussi président d'entourage qui est notre business, toi et moi, d'immobilier. T'as fondé ça en 2017. Puis là, aujourd'hui, quand tu te présentes comme investisseur immobilier, tu dis que t'as combien de portes?
Ben, je dis la vérité, c'est-à-dire un peu plus de 500. J'essaie de toujours être factuel.
Ouais. Ben, puis en fait, c'est 500 en 5 ans à peu près.
Oui, c'est ça. Commencé en 2017, donc en 7 ans, mais c'est sûr que ça commence très lentement au début. Hein, se bâtir une équité, c'est comme commencer à faire tourner une roue qui va très lentement. C'est la première poussée qui est difficile. Donc, 2017, avant que tu embarques puis qu'on fasse affaire ensemble, on avait seulement 2 8-plex qu'on a achetés dans le début de l'année. Puis là, juste le temps de se rebâtir, de commencer à apprendre comment ça fonctionne. À l'époque, on gérait avec mon meilleur chum, puis mon père faisait la gestion, en fait, à temps partiel. Lui, il est avocat de profession en fin de pratique. Puis l'année d'après, bien, c'est là que tu es embarqué en 2018 de mémoire. Puis là, bien, écoute, on a acheté une trentaine de logements. Puis là, la roue commence à tourner parce que chacun de ces immeubles-là accumule de l'équité. Puis c'est ça qui est la beauté de l'immobilier. Puis dans un certain sens, c'est un système qui existe en Amérique du Nord, mais il faut prendre conscience de la chance qu'on a de pouvoir partir une business immobilier comme ça parce qu'on a l'effet de levier que les banques nous offrent qu'on n'a pas dans les systèmes, par exemple, européens où il faut que tu mettes quasiment 100% de ta maison en cash. Puis c'est pour ça qu'on est capable de vraiment faire de l'ingénierie financière. Puis c'est ce qu'on a fait avec les années, puis en gérant une bonne business, en faisant des bons deals. Puis on est monté comme ça tranquillement, arrêter d'acheter des 6 logements, commencer à acheter des 25, arrêter d'acheter des 25, acheter des 50, des 100. Puis c'est comme ça que ça... Ça nous amène ici aujourd'hui.
J'ai une question. Quand tu dis, tu sais, l'équité grossit, fait que tu achètes 2 8-plex, qu'est-ce qui fait qu'en un an, tu as assez d'argent ou d'équité pour acheter après ça un autre 50 portes en un an? Comment ça, ça prend autant de valeur rapidement?
C'est l'effet de levier. Puis je vais simplifier ta question. On va prendre un 8-logement. Comment en avoir un deuxième 8-logement? Je te dis pas que ça prend 2 mois. Puis c'est pas du get rich quick dont je vous parle, évidemment, parce que c'est pas le but. Puis c'est jamais ce qu'on a fait. Et ce n'est pas non plus de la rénoviction de mettre tout le monde dehors. On n'a jamais fait ça non plus. Puis écoute, tu sais, j'ai même un peu de misère à comprendre comment le modèle fonctionne au niveau de la rénoviction. Ça me semble ni facile ni le fun. En tous les cas, un modèle
pas
normal.
Facile, pas le fun, mais payant, on dirait.
Possiblement. Mais il y a une affaire que les développeurs immobiliers oublient souvent, puis ça a pris des années à le comprendre. À la fin de leur projet, ils oublient souvent de faire de l'argent. Ils vont me dire qu'ils en ont fait beaucoup, ils vont expense beaucoup sur la business, mais on a eu Luc Poirier tantôt, j'ai aucun doute sur ses skills, mais dans le mid-market, dans le bas du marché, essaye de compter les billes de la personne du jour où elle a acheté, avec ses frais de notaire, sa taxe de bienvenue, les 3 ans qu'elle a passé devant l'arrondissement, pour soulever de terre un cisplex qui a coûté peut-être 1 million de coûts de construction en tant que tel. Souvent, on oublie de faire cet argent-là, justement,
de se payer à la fin.
Fait que ça, c'est une opinion personnelle. Mais pour revenir au point initial, c'est l'effet de levier qui est l'ensemble de la réponse. C'est pour ça que je dis qu'on est chanceux d'avoir le système bancaire qui est aussi, pas permissif, mais qui aide autant les entrepreneurs en immobilier, aussi flexible. Si tu augmentes tes revenus ou tu augmentes tes revenus nets en baissant tes dépenses, en augmentant tes revenus de, disons, 10 % sur cette année-là, ce qui est possible, tu optimises ton système de chauffage, tu augmentes les loyers parce qu'il y en a un ou deux qui partent, tu optimises tes logements, tu les améliores, sans faire d'abus, bien, ton 10 % de plus-value que tu viens de prendre, c'est seulement sur le 20 % que tu as mis. Fait que là, tu as un demi-8-plex qui vient d'arriver. Si tu as accumulé un peu d'argent entre les deux pour le deuxième 10 % de la mise de fonds totale, bien, tu es rendu déjà avec ton deuxième. Fait que c'est comme ça que tu peux bâtir de l'équité. C'est purement l'effet de levier. Puis c'est ça, la magie de l'immobilier réside uniquement dans le prêt. Puis si tu es capable de bien orchestrer tes prêts dans un bon timing, maintenant, n'est pas un bon timing, on s'entend, mais à l'époque, ça nous a permis de faire ça très rapidement.
Est-ce que vous auriez pu bâtir aussi vite en 2023 avec des taux d'intérêt plus élevés?
Non. Obligatoirement, non.
Ça prend 3 fois plus de mise de fonds pour le même actif actuellement, juste parce que les taux d'intérêt ont triplé au cours des dernières années. C'est aussi simple que ça. Fait qu'on a racheté 3 fois moins d'immeubles, et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé en toute transparence. On a été gelé au niveau transactionnel pendant plus qu'un an.
Bien, c'est... Fait que là, en écoutant ça, Carlo, tu regrettes-tu de ne pas être rentré finalement?
Oui, je regrette. Je ne suis pas dans les regrets, mais c'est quelque chose que je me dis, il faut que je fasse ça dans ma vie pour accumuler de la richesse, puis tu sais, du patrimoine familial, puis ça m'apparaît être une bonne façon. Fait que j'écoute, je gobe ce que vous avez dit.
C'est une business en soi. T'sais, c'est ça que des fois, les gens pensent... Tu sais, je répondais tantôt à ta question par rapport au
pourquoi t'as pas acheté
restaurant. Moi, dans mon cas, c'est de me concentrer sur une opération de restaurant qui roule 7 jours sur 7 dans chaque unit. Après ça, si cette unit-là devient 2 business, donc là, il faut gérer le voisin qui est mon locataire, il faut gérer le... Tu sais, tout ce qui devient autour... Tu fais non, si je me concentre pas sur ce que je devrais faire de l'argent là. Fait que pour la même mise de fonds, je vais faire un autre restaurant qui va générer un autre 2 millions de chiffre d'affaires. Puis là, on and on. Fait que tu sais, moi, c'est de cette façon-là, contrairement à vous autres sur les portes. Mais j'ai acheté une usine, puis on a pu acheter la bâtisse industrielle dans la transaction dans un prix très bon. Fait que pour nous, ce moment-là était charnière de dire, OK, on va le faire pour celle-là. Mais on opère
propriétaire
de 100% de l'unité d'opération. Fait que là,
c'est une intégration verticale. Si tu achètes ton immeuble et que tu te retrouves avec des locataires résidentiels, tu es en train de juste créer un autre système d'opération complètement différent.
Exactement.
Dans lequel tu n'as pas nécessairement le skill set au départ. Tu sais.
Ben non, puis là, ça devient une espèce de pas de divague pas, mais...
Tu diversifies mal.
Tu diversifies mal, mais ça devient
une distraction.
Une distraction, merci. Mm-hmm. Ça devient une distraction. Donc, c'est pas l'opération dans laquelle tu es bon que tu optimises. Tu fais d'autres choses.
Mais je serais curieux, as-tu vu le film The Founder sur le fondateur de McDonald's, ou en fait le faux fondateur?
Non.
Ou est-ce que, justement, le modèle d'affaires de beaucoup de restaurants comme ça à la chaîne, c'est le real estate, en fait. C'est l'immobilier, c'est posséder le terrain, puis là, après ça, avoir des franchisés. Il n'y a pas ici un modèle où est-ce que des restaurateurs, justement... Je pense que Stefano Fajita, lui, c'est le modèle qu'on disait.
Et on l'avait reçu, lui, au dérangeant, puis il achète les bâtiments où il y a ses restaurants.
Mais c'est culturel, eux autres. C'est une famille qui ont des blocs, qui ont un quartier, qui sont tous collés, sa mère et l'autre côté. Ils se sont ancrés. Est-ce qu'ils ont de l'immobilier en dehors de ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont une business d'immobilier? Parce que, tu sais, quand tu as un restaurant au rez-de-chaussée, tu gères les locataires au deuxième, c'est effectivement une distraction ou un autre modèle. Pour revenir aux chaînes de McDo, les stations-service, les dealers automobiles, effectivement que le levier, eux autres, dans leur business, à terme, c'est le real estate, c'est l'immobilier. Parce que c'est un single unit sur un terrain.
C'est vrai.
T'as pas vu un McDo qui partage son bloc avec un coiffeur?
Non.
Dont il est propriétaire de l'édifice, puis il gère le coiffeur. Je pense pas que ça existe.
Non, complètement ben non.
Fait que c'est là que... Probablement que le modèle fonctionne.
Ça, c'est du commercial. Je serais curieux, Greg, de t'entendre, en fait, pourquoi tu as choisi le résidentiel. Justement, Luc Poirier disait dans son épisode, j'ai sorti de ça, des locataires, ça me faisait chier. Je t'ai appelé souvent en pleurant, en disant que les locataires me faisaient chier. Justement, qu'est-ce qui t'a attiré dans le multiplex?
Apparemment, il y a plein de choses qui m'attirent, mais il faut vraiment que je me limite parce que je travaille à temps plein. Tu sais, dans la radiologie, fait que...
Oh, vous n'êtes pas part-time, les médecins?
Fait que là, je cumule les temps pleins, dans le fond. Fait qu'il faut quand même que je me rationalise. Fait que la raison, je te dirais, c'est il y a plein de choses que je ne peux pas faire, juste par question de temps et de capacité, évidemment, aussi. Mais l'immobilier, ce que j'aime, puis en tout respect pour ceux qui en font beaucoup, là, mais c'est business light en un certain sens. Tu as un produit qui est tout le temps en demande à tout le moins au Canada, puis c'est du logement. Tout le monde en veut, peu importe ce que
tu fais.
C'est
la pyramide de Maslow, là. C'est comme se loger, ben, se nourrir.
C'était à la base. Il y a une barrière à l'entrée qui est relativement élevée dans le marché actuel, évidemment. Si on était capable de survenir à ça, justement, à travailler en temps plein, puis accumuler du capital dans notre autre profession. Mais à partir de là, c'est quoi de l'immobilier? C'est des systèmes, des chiffres, puis des gens. Moi, j'aime les trois. J'aime surtout l'analyse financière. J'aime surtout le monde. Quand je dis le monde, je parle pas juste des locataires. Je parle rencontrer des propriétaires. La panoplie de gens que je rencontre pas dans ma vie, moi, en médecine, tu sais, des inspecteurs en bâtiment, des banquiers. Je trouve ça super le fun, super trippant. Puis j'ai besoin de cette
des
espèce
gens, c'est
de.
C'est trippant que ça, là.
C'est genre, là.
Je te sens trop heureux, là.
Il n'y a pas de facteur sexiness sur un inspecteur en bâtiment.
Sans blague.
Moi, peut-être que oui. J'ai pas vu, mais
je sais pas si Greg y allait en parler, mais notre inspecteur en bâtiment qu'on utilise à chacune de nos acquisitions, en fait, il sort la même joke en dedans d'une heure. C'est, il y a deux sortes de puits de lumière. Il y a ceux qui coulent, puis il y a ceux qui vont couler. C'est, on l'entend
à chaque fois, en dedans d'une heure. Même si l'inspection dure 6 heures.
Il y a aucun de vos investissements immobiliers qui a du puits de lumière.
J'aimerais ça te dire ça, mais il y en a tout. C'est sûr, c'est beaucoup de gestion d'un immeuble, tu sais, puis c'est ce qui vient avec toute la charge opérationnelle dont tu parlais tantôt, que tu n'as pas à dédoubler si tu as déjà une business qui roule bien au niveau de tes opérations. C'est un autre skill set complètement.
Et là, vous avez 500 portes?
Oui, un petit peu plus, oui.
Combien d'employés gèrent 500 portes, à part vous deux?
C'est une très bonne question. Puis il y a plein de modèles. À un moment donné, quand tu atteins une certaine taille, tu es capable d'acheter des plus gros immeubles, fait que tu peux décentraliser ta gestion. Fait que là, ce que je veux dire avec ça, c'est est-ce que tu considères un concierge qui habite dans l'immeuble, qui fait toutes les petits calls de service comme un employé? Pour nous, c'est comme un hybride, mais je ne le compterais pas dans le payroll qui centralise la gestion du bookkeeping, du marketing, tout ça. Fait que je te dirais, c'est un employé par centaine de portes, mais j'exclus les concierges là-dedans. Ça, c'est notre expérience à nous. C'est relativement collé sur les barèmes là, que les banques et la SCHL utilisent.
Okay. On en a parlé durant notre entrevue avec Luc Poirier, en fait, sur les métriques au Canada qui sont, en fait, qui poussent vers un manque de logement. Il y a un bilan migratoire qui est positif. On a à Montréal 4 universités, donc il y a une demande pour des logements continuels et il n'y a pas de mise en chantier. Je pense qu'on avait la statistique, c'était qu'en 2023, il y a à peu près 80 % moins de mise en chantier qu'il y avait dans les années antérieures, alors qu'à Toronto, c'est 30 % plus de grues pour vraiment faire pousser les
logements. Alors qu'on est déjà en déficit de logement.
Exact.
Que l'immigration va augmenter, donc c'est comme une mauvaise direction, là.
Fait que je serais curieux, si j'étais un jeune entrepreneur, justement, de 25 ans aujourd'hui, est-ce que je me lance dans l'immobilier en disant que c'est vraiment un bon investissement, peu importe ce qui va se passer, malgré les prix. Greg, t'en penserais quoi? Tu conseilles-tu à quelqu'un de se lancer en date d'aujourd'hui?
Personnellement, l'immobilier résidentiel existant, là, donc pas la construction dans laquelle je connais moins de choses, pas le bureau, l'industriel dans lequel je connais moins, qui sont des marchés distincts. Oui, je suis extrêmement bullish sur, donc je suis très optimiste sur tout ce qui est marché immobilier résidentiel dans le Grand Montréal. Justement pour les tendances que tu as évoquées, on a des ventes d'eau qui sont incroyables. Puis là, je te dis ça, je ne souhaite pas une crise du logement, là, même si mon intérêt financier y serait, c'est pas du tout ce que je souhaite d'un point de vue personnel. Puis j'habite Montréal, je souhaite pas de crise sociale. Cela étant, il faut constater les faits, la crise du logement, ça n'en va pas nulle part. Tu as de la démographie qui augmente, on va accueillir encore le même nombre d'immigrants au moins qu'il va y avoir eu en 2023, en 2024.
Sinon plus.
Tu as des mises en chantier qui sont décimées parce que le business case de faire lever un immeuble de terre actuellement est zéro. Ouais. Toutes les pro forma des business de construction sont dans le rouge encore.
Les coûts aussi, hein? C'est les taux d'intérêt, mais c'est les coûts de construction.
Les coûts de construction, tous ces gens-là empruntent pour financer les coûts de construction, donc plus rien n'a du sens. Tu construis une unité qui va te coûter 500 000 la porte, mais avec un taux d'intérêt à supporter de 7 %, bien écoute, c'est complètement différent. Là, t'en as pour à peu près 100 000 de plus d'intérêt par année là, à la fin de ton projet. Ce n'est plus viable. Pour toutes ces raisons-là, absence d'inventaire, augmentation de la demande, puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, Montréal, c'est une île. Fait que terrain disponible limité physiquement. Pour toutes ces raisons-là, oui, je suis extrêmement optimiste sur la direction du marché. Je ne souhaite pas une inflation, une crise du logement, encore une fois. Mais si quelqu'un a le capital, puis que la banque pense que c'est un bon projet, puis te prête un bon montant, écoute, avec l'effet de levier puis les tendances macroéconomiques qui sont derrière nous, oui, je suis convaincu que c'est un bon investissement.
Il y a une façon de se lancer en immobilier sans s'occuper de la gestion. Par exemple, j'ai 100 000. Je me trouve, Luc Poirier en a parlé dans son entrevue, je pense, tu trouves deux, trois amis là, qui ont de l'argent, puis tu mets ça dans le même pot, puis tu achètes plus gros, mais sans avoir à gérer, sans avoir le hassle là, de dire maudit locataire, déneigement.
Bienvenue chez Entourage Immobilier, Carlo. C'est exactement moi, j'ai pas eu de locataire qui m'a appelé. Je décide de m'impliquer parce que, bon, j'ai pris mon permis de courtage, j'adore le transactionnel, mais une fois que l'immeuble est acheté.
J'ai-tu dit que je détestais les agents d'immeuble?
Sans commentaire, évidemment. tu sais, une fois que l'immeuble est acheté, moi, je me fais pas appeler, mais c'est un choix que j'ai fait. On a une business qui est un petit peu plus lourde au niveau opérationnel puis du headcount, mais ça fait en sorte qu'il n'y a pas de dérangement. Je peux travailler, faire mes choses à l'hôpital. Puis quand il y a une transaction, je vais me mettre en ligne. Hier, je me suis couché à 11 heures pour lire un rapport d'inspection qu'on vient d'obtenir. Puis je vais toujours continuer à faire ça parce que ça me passionne. Mais ce qui ne te passionne pas ou ce que tu n'as pas le temps pour faire ou ce que le coût d'option est trop élevé parce que je suis mieux de lire des scans puis des IRM que d'aller réparer une toilette, surtout parce que je ne suis pas bon pour réparer la toilette, mais à un moment donné, tu peux déléguer, puis il y a beaucoup de main-d'œuvre qui existe. Je comprends que, bon, c'est pas la chose la plus facile de trouver de la main-d'œuvre, mais il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir t'appuyer là-dedans. C'est des skills que tu peux retrouver, incluant chez tes propres locataires.
Y a-t-il des sociétés qui ne font que ça?
Oui.
Tu sais, de la gestion immobilière.
Ah ben oui, ben là, tu touches un bon point. Si on avait décidé de pas bâtir notre propre business avec notre propre payroll, tu peux juste
acheter... Mais c'est rentable avec...
Tu peux sous-traiter.
C'est rentable. Ça va être rentable. Écoute, dans le marché d'aujourd'hui, je peux pas te dire parce que c'est pas notre modèle, mais ça a été rentable pendant longtemps. C'est
le nombre de portes où ça devient rentable.
Ils te font... Ben c'est comme n'importe quoi. C'est régressif comme tarification. Fait que si tu as un 6 logements, ils vont peut-être te charger 10 %, puis si tu en as 500, ils vont te charger 5 %.
Mais tu vois, voir. Moi, c'est mon élément où est-ce que je ne sais pas si je conseillerais à quelqu'un de s'acheter un triplex en ce moment, aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que tu as une personne qui ne paye pas sur trois, c'est 33 % de tes revenus qui ne sont pas au rendez-vous. Alors que quand tu en as 1 sur 100, tu sais, la mathématique est là. C'est plus que 1 sur 100, on est d'accord, quand ça se rend à ce niveau-là. Mais il y a une économie d'échelle qui, à 100 logements, ça vaut la peine d'avoir un employé. Tu as un peu le cash flow qui est généré. Puis c'est triste à dire, mais se rendre à 100 logements, en général, tu as une job on the side. Si tu as deux enfants en plus en bas âge, tu en as trois, mais c'est tough de les rendre esclaves. Puis d'aller. Mais sont-tu en âge d'envoyer peinturer compatible? Donc, c'est vrai, toi, tu as deux enfants. Je ne sais pas si, en date d'aujourd'hui, je dirais que c'est un très, très bon investissement. J'aurais tendance à être un peu plus moins bullish que toi. Il y a une tendance qui s'en vient puis que les gens parlent de plus en plus, c'est les tours à bureaux. Puis là, en fait, d'être propriétaire de ces bureaux, c'est une chose, mais on voit que ça se vide. Le centre-ville de Montréal, le télétravail, est-ce qu'on va voir prochainement, en fait, des logements en pleine place Ville-Marie?
Écoute, tout ça dépend du municipal. Puis le municipal, c'est dans mon top 3 des paliers de gouvernement que j'aime le moins.
Considérant qu'il y a 3 gouvernements.
Ouais, la barre était pas. Non, mais blague à part, il y a tellement de problèmes pour convertir une tour à bureau en logement. Tu as à peu près probablement 10 à 20 % des tours à bureau qui sont éligibles. Okay? Puis le premier problème, il est juste physique. Une tour à bureau, c'est très, très large en termes de square footage. Tu n'as presque pas d'accès à des fenêtres. Mais pour construire une chambre, il te faut une fenêtre. Pour construire une salle à manger, il te faut une fenêtre. Puis ça, c'est le code du bâtiment. Ce n'est pas juste moi qui le dis. Donc, ce que tu vas devoir faire, c'est acheter des petites tours qui n'ont pas un gros floor plan. Sinon, tu vas créer des appartements de 3000 pieds carrés pour une petite fenêtre. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton 3000 pieds carrés qui a une chambre et que tout le reste est fermé dans le noir? Fait que le floor plan ne marche pas dans à peu près 80 % des immeubles parce qu'ils sont trop gros. Deuxièmement, le zonage. T'sais, ça va prendre du temps avant de dézoner ces immeubles-là parce qu'il va rester des locataires commerciaux encore. Ce ne sera pas purement résidentiel. Donc, il y a une complexité puis il y a du temps que ça va prendre. Puis l'autre affaire qui est aussi physique, c'est que dans une tour à bureau qui est très large, encore une fois, toutes tes lignes de plomberie d'électricité sont au milieu. Fait que tirer une ligne de plomberie pour aller te mettre un lavabo de cuisine à côté de la fenêtre, ça va te coûter tellement cher parce que tu as acheté ton terrain, tu as acheté la tour qui existe déjà, tu as probablement payé la tour quand même cher parce qu'il y a encore des locataires commerciaux dedans. Ça va te prendre des années à le zoner correctement. Puis une fois que tout est dézoné, ça va te coûter à peu près 300 000 de plus par logement, mais tu as déjà eu un coût de centaines de milliers par logement.
De conversion.
Et donc, tu vas louer combien ou tu vas vendre combien ce condo-là ou cet appartement-là? Le business case ne marche pas. Ça ne marche pas ici, ça ne marche pas aux États-Unis. Il y a des exceptions, hein, comprenez-moi bien. Mais en général, une tour à bureau n'est pas faite pour supporter des logements dans la grande majorité. Puis c'est un petit peu triste parce qu'on pense à ces espaces-là qui sont...
Ouais. C'est du pied carré perdu, là.
Ça n'a pas de bon sens. Puis bon, écoute, mais pour l'instant, la trend immobilière fait en sorte que ça ne pourra pas fonctionner.
C'est quand même fascinant. Puis je serais curieux de revenir sur le point, en fait, de l'industriel. Parce que là, on a parlé du résidentiel, on a parlé du commercial avec les tours à bureau. D'avoir une usine alimentaire, justement, est-ce que faut que tu vendes, on dirait, comme pour 10 millions de produits juste pour être capable de s'assurer de payer la bâtisse? Est-ce que, justement, les coûts d'entretien de cet actif-là pèsent sur l'entreprise de transformation?
Mais dans l'industriel, c'est des coûts que tu vas absorber de toute manière.
Je comprends.
Fait que c'est pas comme un logement que tu vas louer ou, tu sais, l'entretien. Quand tu loues un espace commercial, c'est souvent beaucoup moins cher, ou industriel, c'est beaucoup moins cher au pied carré. Mais tu absorbes les frais. Fait que c'est le modèle un peu inversé. Fait que d'acheter rendu là, c'est pratiquement une suite logique dans le modèle, tu sais. Parce que tu payes la coquille, en fait, en location. le reste, c'est à toi, tu sais.
Puis est-ce que c'est l'entreprise qui possède son building ou est-ce que vous l'avez fait en personnel et vous louez à l'entreprise?
C'est une autre entreprise.
C'est une autre entreprise. Ça fait que vraiment, on sépare les expertises.
Il y en a qui, tu sais, il y a des modèles simplifiés qui probablement ont toutes, mais quand tu as un opérant, comme on appelle dans le jargon, ben tu ne mets pas l'immobilier dedans.
Mm-hmm. C'est super intéressant.
Puis c'est une bonne façon d'accumuler du patrimoine personnel parce que ton entreprise, tu la possèdes, mais l'immobilier peut être justement une INC qui t'appartient, mais qui n'est pas lié nécessairement à l'opérant, qui est juste locataire.
C'est ça. Puis
ça, c'est une bonne façon d'accumuler du patrimoine.
Mais je pense que c'est ce que tu avais fait, toi.
Ouais. Avec le condo commercial qu'on avait, ce qu'on avait fait aussi.
Tu le possédais en personnel, puis finalement.
Ouais, on était deux, on avait créé une entreprise, moi et une neuropsychologue, puis on possédait ça, puis nos sociétés étaient locataires, dans le fond, de l'entreprise qu'ils possédaient.
Puis t'as vendu, finalement?
Oui, on a vendu juste avant la COVID, mais quand on est deux, il faut s'allier à deux, puis là, l'autre personne voulait vendre. Moi, je voulais pas tant vendre, puis finalement, très content d'avoir vendu, somme toute, parce que j'ai trouvé des meilleurs bureaux, deux fois moins cher que ça me coûtait, en location, mais qui me conviennent mieux. Puis j'ai fait pas fait un coup d'argent, mais j'ai quand même accumulé du capital avec...
T'as remboursé, ben c'est ça. Ben, c'est ne pas négliger, parce qu'en ce moment, sur les tendances qu'on voit pour 2024, c'est qu'il y a beaucoup de propriétaires de bureaux commerciaux qui sont prêts à faire vraiment des gros cadeaux, je pense, pour avoir plus de locataires, donner des mois gratuits, d'être capable de faire quand même des bons deals.
Oui, puis tu sais, ben c'est dur parce qu'il y a plein d'entrepreneurs que je connais qui ont sondé leurs employés en disant « Voulez-vous avoir une place au bureau? Oui. Pensez-vous venir au bureau? Non. » Tu sais, les employés aiment savoir qu'ils ont une place qui les attend, mais ils veulent
pas y aller. C'est un modèle qui n'est pas à terme parce que c'est exactement dans ce que tu dis. Parfait, moi, mes employés viennent 3 jours au bureau par semaine. Tu peux pas louer un bureau 3 jours.
Non, c'est ça.
Fait que tu restes pris avec le floor quand même à temps plein.
Oui.
Fait que ce picoré-là, tu le payes anyway. Fait que le modèle est encore difficile puis il n'est pas à terme, tu sais, dans ta réponse de les logements. On ne sait pas. On est en transition, là, on est en changement. C'est, tu sais, les logements sociaux actuellement qu'on cherche. On cherche ça depuis quand? C'était pas d'actualité il y a un an. Là. Ça commence à être plus présent puis c'est réel. Mais là, on le soulève, on le dit, ça prend des solutions. Ils vont arriver dans 2-3 ans. Après ça, le télétravail, c'est une nouvelle réalité depuis la COVID. Qui n'est pas encore non plus fixé. Je pense qu'on est plus loin là-dedans, mais on va arriver
à des modèles. Mais tu vois, moi, je pense vraiment que c'est en train de revenir. Parce que la promotion va...
Le travail en personne?
Le travail en personne. Je pense que le télétravail était une mode et qu'il ne restera pas. Ça sera le sujet d'un autre épisode complètement. Mais la promotion ne va pas aller à un employé qui est en télétravail. C'est celui qui va venir, qui va être dans le cadre de porte. Hey boss, ce projet-là, il a l'air vraiment le fun. Je peux-tu en faire partie? Il y a une espèce de sélection naturelle que l'humain est un être social et veut interagir. Puis, je serais curieux de vous entendre. Est-ce que vous avez suivi la saga de WeWork qui s'est passée il y a quelques mois? Ou est-ce que là, en ce moment, ils sont en faillite technique? Puis, on regarde les actifs de cette entreprise-là. En fait, c'est les beaux. Puis, c'est un actif pour eux, mais c'est un actif qui vaut finalement pas grand-chose.
Qui est un passif actuellement.
Qui est plus un poids. Est-ce que...
C'est pas un vrai actif, un bail, là. Il y a une limite.
Un bail, c'est un contrat.
Ça peut l'être. Dans un cas, moi, j'achète un restaurant puis qu'il reste un bail de 10 ans dessus. J'achète un fonds de commerce puis un bail de 10 ans, ça devient de l'actif. C'est du passif pour l'autre qui l'a. Tu sais,
c'est
exactement ça, c'est un jeu.
C'est vrai que quand tu évalues cette entreprise-là, tu fais comme, ouais, je veux-tu vraiment rester ici 10 ans? Tu sais, ça va être
non,
assez
moi,
gros.
C'est sûr positif. Si j'achète un fonds de commerce dans un endroit X, c'est une sécurité d'avoir 10 ans de bail encore.
Voilà. Fait que tu es capable de forecaster
ce qui est dans l'entreprise-là, les équipements, les améliorations locatives, ils ont de la valeur parce qu'un bail, s'il me reste 18 mois de bail, je ne l'ai pas. Tu sais, je reviens, il y a un côté où. Tout ça, ben c'est comme tu dis, c'est passif d'un bord, puis c'est actif de l'autre bord. Enfin, c'est positif et négatif.
Mais justement, puis moi, ce que je vois, c'est que WeWork, qui était la plus grande entreprise de coworking, finalement, on se rend compte qu'ils ont eu de la misère à avoir assez de clientèle, à faire balancer leur état des résultats, parce qu'il y a vraiment un retour de la tendance qui est, ben, on a nos bureaux, on demande à notre staff de venir, le coworking, c'était cute, mais ça coûte trop cher. Fait qu'on va se prendre des bons vieux bureaux bruns.
Moi, je crois pas trop, Étienne. En temps de pénurie de main-d'œuvre, l'employé a du pouvoir en tabarouette. Puis je dis pas négativement, mais l'employé, tu peux dire, viens chez nous. Si lui veut travailler à distance, il va dire, pas de problème, je vais aller travailler pour un autre. T'as pas. Tu sais, avant la pandémie, t'imposais tes conditions comme employeur. Puis quand tu donnais une demi-journée de travailler à la maison, une journée de travailler à la maison, t'es la meilleure boss.
T'es un dieu.
C'était hot, tu sais. Puis là, c'est l'inverse, là. Moi, j'oublie mon monde à venir une journée par semaine au bureau.
Puis ils chialent dessus.
Non, ils sont contents. Je pense que je pourrais me rendre à 2 ou 3, puis ils seraient contents.
Mais ils sont contents de rester chez eux aussi. Ils voient les bénéfices d'être au bureau. Mais en même temps, je le vois les bénéfices pour eux, là. Aller chercher l'enfant à l'école, le souper, ils gagnent littéralement une ou deux heures par jour. Puis comme employeur,
c'est une séquelle permanente que j'appelle.
C'est intéressant.
Qui sont là, qui vont... Tu sais, c'est vraiment ça. C'est des choses qui ont été changées par la COVID, là, qui ont remodelé, qui ont refait, qui ont remis en question plein de modèles, dont le tien, puis qui font en sorte que tu dis, OK, finalement, c'est le in-between. Est-ce que le retour va se faire? Oui, on est des bêtes sociales, mais il reste que c'est des business, tu sais. Fait que le social, il joue, mais je regarde, mettons, des gars qui étaient sur la route pour des ventes en informatique. Finalement, le gars est chez eux avec ses trois écrans. Il vend autant, probablement un petit peu plus, et il a la qualité de vie dont tu parles. Fait que ça, c'est le modèle, lui, il est à son... Il fait plus de...
Évolution,
il allait même pas au bureau, il était sur la route. Mais lui,
combien d'heures il perdait sa route?
Et probablement plus qu'on pense. Puis le kilométrage, les restaurants, là, ramène ça chez vous. Économie d'argent, liberté à la maison. C'est
le chalet dans le nord où il va à temps plein.
C'est une vie moins stimulante un peu. Puis là, moi, je dis ça, je suis un
extraverti.
Ça dépend de chaque personne, mais on sait très bien que le bonheur puis les interactions sociales sont étroitement corrélées. Fait à un moment donné, de rester chez vous toute la journée, de juste importer tes enfants, retourner chez vous, voir du monde sur Zoom, toute ta carrière, quand tu commences ça à 25 ans puis tu finis à 60 ans, il y a quelque chose d'un peu drabe là-dedans que je dis pas que ça va pas plaire à certaines personnes, mais je pense pas que ça peut plaire à tout le monde d'un point de vue de qualité de vie là, sur le long terme.
Je veux terminer, en fait, notre CA avec le point des investisseurs étrangers. Il y a eu le cas de la loi C-32, en fait, au Canada pour interdire des acheteurs étrangers d'investir uniquement au Canada sans avoir eu une taxe. L'objectif était vraiment de limiter... En fond, des maisons vides ou carrément des logements qui n'étaient pas gérés.
Et la surchauffe aussi qui est
surchauffe. Ça a eu un impact que, en fait, on voit que c'est moins de 5 % des propriétaires de logements au Québec qui sont des investisseurs étrangers, mais c'est en fait 50 % si l'on considère les propriétés d'une valeur supérieure à 1 million de dollars pour les non-résidents au Québec. Donc, comme quoi, 50 % des propriétés de luxe au Québec seraient des investisseurs étrangers. Est-ce que de votre côté, vous êtes pour ou contre le fait que si tu es étranger puis tu donnes la juste valeur, mais ultimement, le propriétaire, lui, en a pour son argent puis il réinjecte cet argent-là dans le Québec, ou au contraire, c'est que ça a fait des barrières pour les Québécois d'avoir accès au logement? Je serais curieux de vous entendre.
Moi, je suis un capitaliste puis un libéral dans l'âme. Tu me parles de tarifs, de taxation, puis je m'imagine que la même chose m'est imposée pour acheter peut-être une maison ou un condo à New York ou en Floride. Je trouve que c'est des tarifs mal placés, mais ça, c'est une opinion qui est générale. D'un point de vue aigu dans le local de la crise du logement à Montréal, c'est sûr que j'aime pas beaucoup de voir des gens, des joueurs étrangers, souvent des fonds de pension, des compagnies d'assurance qui viennent jouer avec nos concitoyens pour faire de l'ingénierie financière sur leur dos, dans leur logement. Donc, de ce côté-là, je comprends, je suis en faveur jusqu'à un certain point de cette mesure sociale-là dans un contexte aigu, mais il faudrait qu'une fois qu'on atteint un certain moment où le marché retourne à l'équilibre, qu'on lève ça. Puis pour ce qui est des domaines, des propriétés de luxe qui ne seraient pas de l'investissement immobilier, mais plus une détention, mais là, à un moment donné, tu as une belle maison, tu peux la vendre à qui tu veux, à mon humble avis, puis si ça donne que c'est quelqu'un qui va passer juste 3 mois par année là quand il fait beau, ben tu fais la même chose en Floride, tu laisses ton condo tranquille, tu laisses ton condo vide 6 mois par année. Il y a une certaine réciprocité à laquelle il faut penser. Puis pense au vendeur, est-ce qu'il pourrait pas vouloir vendre sa maison à qui il veut? Donc, je suis plus libéraliste dans l'homme de ce point de vue-là, mais dans un contexte de crise aiguë du logement, effectivement, faut le considérer. Donc, il y a des pour et des contre.
Ouais, je suis comme toi. Là. Sur le logement social, je pense qu'il faut faire attention, mais après ça, pour la valeur foncière perso, je pense qu'il faut ouvrir les portes un peu.
T'sais, c'est des adultes consentants, ils peuvent vendre à quelqu'un. Puis de toute façon, il y a des règles qui protègent. Tu peux pas vendre ta maison à un criminel chinois pour dire de quoi. Il y a plein de règles qui protègent ça dans le notariat et dans le droit. Comment?
Peut-être, c'est correct.
Mais moi, je suis pas d'accord avec vous autres. Moi, je crois, si on laisse les entrepreneurs décider, les entrepreneurs, là, je suis pas anti-entrepreneur, je suis pro-entrepreneur, mais les entrepreneurs pensent à leur poche, pensent à leur bottom line puis à leurs actionnaires. Je crois au rôle des gouvernements. Les gouvernements sont là pour quand même mettre des limites, des barèmes au bénéfice de la population. L'entrepreneur s'en sacre un peu de la population. Fait que, tu sais, oui, il va vendre. Tu sais, s'il y a un investisseur chinois qui te donne 10 millions pour ton bloc, tu vas y vendre, tu vas être content. Mais si ça nuit à la population, jusqu'à un certain point, ça prend des mécanismes qui empêchent ça.
C'est pour ça que l'immobilier oublie ça.
Reste en éducation.
C'est pas le petit côté shark, là. C'est juste ça.
Messieurs, merci beaucoup. Restez avec nous parce qu'au retour de la pause, on a la question dérangeante qui fait quand même friser quelques cheveux sur la tête.
Le CA des dérangeants, une présentation de Kiera Capital, la plus importante banque d'affaires indépendante québécoise offrant des services conseils pour vos projets de vente, d'achat et de financement d'entreprise. Avec plus de 300 collaborateurs dans 35 pays, Kiera Capital vous offre un monde à la hauteur de vos projets.
Pour la question dérangeante cette semaine, en fait, tenez-vous bien, roulement de tambour. Si on va, je m'inspire du cas de Sam Altman de OpenAI, en fait, qui a été limogé, qui a été remplacé et qui travaille en intelligence artificielle. Si vous aviez à remplacer un employé ou une fonction dans vos entreprises avec l'intelligence artificielle, ça serait laquelle et pourquoi? Carlo?
Je vais y aller. Tu sais, l'intelligence artificielle montre des progrès hallucinants qu'on n'aurait même pas pensé réalistes pour le commun des mortels il y a un an. Tout ce qui est rédaction, traduction, on le voit même de la création de certaines images. Maintenant, l'intelligence artificielle est capable de faire des belles choses. Interprétation de données, juste ChatGPT, qui est un outil comme public, accessible. Là, même si c'est l'abonnement à 20$ par mois, c'est de l'interprétation de données qui peut fort probablement être meilleur que 90% de ton monde, moi inclus, là, à interpréter. Au moins, la première... Tu sais, 80% de la job, là, fait par l'intelligence artificielle, le 20%, tu le fais toi-même.
Fait que t'es plus mettons, marketing, création de messages, là, communication.
Oui. Puis, tu sais, l'exemple de traducteur, là, cette job-là n'existera plus dans 2 ans. Je peux pas croire à la valeur ajoutée d'un traducteur ou d'une traductrice, considérant les avancées de la technologie aujourd'hui.
Non, j'aurais pensé que tu aurais dit les réseaux sociaux. Je vois que t'aimes tellement ça.
Non.
Toi, Louis-François?
J'étais un peu à la même place, là, sur le rédaction, traduction, tu sais, tout ce qui est même. Il y a plein de documents légaux qui, à un moment donné, vont être challengés par ça parce que
ils vont trouver la
question et ils vont les sortir assez rapidement. Mais moi, dans mes modèles à moi, c'est sûr que c'est dur de faire une recette par ChatGPT. Fait que,
mais t'en as des robots hein, qui font des
redécouvres
ça puis qui peuvent inclure ce genre de technologie.
En fait, ça serait écœurant. Un restaurant, justement, d'intelligence artificielle, puis ça donne ce que ça donne, c'est ça.
C'est ça. Le gros feeling, là, tu sais.
Toi, Greg?
Moi, c'est plus mon côté radiologue qu'investisseur immobilier qui parlerait, là, mais en radiologie, on passe notre journée à dicter des rapports, hein, puis il y a des transcriptionnistes 8 heures par jour qui tapent ça, puis qui font juste...
Parce que tu n'es pas capable de taper toi-même tes rapports.
Je suis pas capable de taper moi-même, je suis trop de nom. Il faut que je coule mes images, tu sais. Mais par contre, ce que je peux faire moi-même, puis je le fais depuis 2 à 3 ans, mais du côté anglophone, parce que je travaille un peu en Ontario, ta transcription automatique, donc c'est du Large Language Model, du LLM, et puis après ça, ton rapport est directement envoyé.
La qualité est super bonne.
La qualité est généralement bonne, oui. Il y a des petits glitchs, là, mais tu te relis puis tu envoies ton rapport. Ce qui est le fun, c'est que des fois, on a des délais de transcription de 2 semaines quand c'est un humain qui le fait. Fait que là, tu as un patient qui a peut-être quelque chose de moyennement significatif. Tu ne l'envoies pas en urgence, mais ça prend 2 semaines avant que ça se rende. Beaucoup de délais, ça alourdit tout. Puis tu sais, tu disais, qui tu remplacerais par l'intelligence artificielle? Mais moi, c'est même pas du remplacement. Il y en manque des transcriptionnistes médicales parce que tout le monde sait que ça va s'en aller dans leur job. Fait que le train est déjà parti. Ouais, c'est même plus du remplacement.
Ça va arriver.
C'est une attrition naturelle, puis c'est un remplacement graduel qui se fait, mais c'est pas au détriment de ces gens-là, parce qu'ils existent pratiquement.
Est-ce que je me trompe ou même ta job pourrait disparaître? Moi, même ça, j'ai lu des...
Tu m'as volé ma joke!
Pour vrai, les radiologistes, là, ouais. c'est de l'analyse de données, d'images visuelles. Ouais. Clairement, un ordinateur est capable de faire ça mieux que toi, une fois qu'il en a vu des millions et des millions de la même image, puis capable de détecter ça, c'est un cancer de ci, ça, c'est ça. T'es un peu inutile, là.
Je pourrais. Ouais, mais ça s'en vient. Mais on va tous être inutiles à terme. Puis, tu sais, je te dirais
plus
dans
toi
la.
Que moi.
C'est vrai que l'éducation, tout ça, c'est des skills qui sont très personnels. Puis, ça va être difficile. Mais.
Est-ce que t'as une crainte ou en tout cas, tu vois
j'ai
ça
pas très de positive, crainte. Hein? Tu sais, j'ai déjà donné des conférences là-dessus. Puis, ça, sur l'intelligence artificielle en radiologie, ça m'intéresse énormément. Puis, je t'en parlerai pas 15 minutes. Ce que je peux te dire, mon horizon à moi, personnellement, avant qu'un radiologue soit remplacé à 100% une trentaine d'années. OK? Puis.
À 80%?
À 80%, c'est une bonne question. Ça ne va jamais être remplacé à 100% parce qu'une biopsie du sein, la robotique, ça ne va pas si vite que ça, l'évolution de la robotique versus les algorithmes comme l'IA. Fait qu'il va toujours avoir besoin d'un radiologue qui rentre une aiguille pour prendre un prélèvement, tout ça, faire des échographies de grossesse, des choses comme ça. Mais à 80%, là, tu me confonds,
5 ans,
j'avoue.
8 ans?
Mais c'est pour ça qu'il y a ça que ça apporte, là.
Oui, c'est mon backup plan. Mais je veux juste te donner une idée. Est-ce que tu trouves que les choses vont vite dans le système de santé au Québec? On est encore au fax. Fait qu'imagine combien de temps ça va prendre avant de remplacer. Puis à quel moment est-ce que l'humain va se dire ma mammographie, moi, de dépistage pour le cancer du sein a été lue par une intelligence artificielle, puis je suis tout à fait à l'aise avec ça, qu'il n'y a pas de radiologue qui soit mis là-dessus. Il y a une acceptabilité sociale.
Ouais, ouais.
Là, je te dis même pas, l'algorithmique n'est pas rendu là, mais quand il va l'être, ce ne sera pas très long, il y a toute une implantation réglementaire puis d'acceptabilité sociale.
Oui, et d'autres professionnels aussi.
mon avis, le fax, c'est un symbole, mais vous avez des machineries tellement plus avancées dans votre métier. C'est pas le fax qui retient ça. Mais les autres professionnels, des fois, c'est les empêcheurs de tourner en rond aussi pour protéger les emplois au détriment, des fois, de la population.
Oui. Je vois pas ça en radiologie parce que notre industrie pousse beaucoup. Il y a tellement de milliards qui sont mis en intelligence artificielle en radiologie. Fait que moi, j'y crois sincèrement. Puis, tu me dis, il y a quelqu'un qui va faire mieux ta job que toi puis qui coûte 0$ de l'acte. Mais je suis comme tout le monde. Mais au contraire, je suis comme tout le monde. Sauf que ce moment-là, puis je le vis dans mon quotidien parce que j'utilise les logiciels d'intelligence artificielle de dépistage et ça marche pas encore. Et loin de là, mais ça va venir. J'ai un horizon, comme je t'ai dit. Ça va peut-être être 10 ans avant. Ça va peut-être être 10 ans après, mais c'est ça mon ballpark. Puis je pense que je peux finir ma carrière en paix. Est-ce que mes enfants vont être radiologues puis je vais les encourager là-dedans? Je sais pas, j'ai besoin d'une dizaine d'années pour y penser.
Oh, c'est intéressant. Louis-François Marcotte, merci beaucoup.
Merci à vous.
Carlo Cocaro, Grégoire Bernèche.
Merci
Étienne Crevier.
Étienne Crevier à l'animation. C'est déjà tout pour nous, en fait, cette semaine. N'hésitez pas à aller nous suivre sur notre nouveau channel YouTube. Également, on est sur toutes les plateformes, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. On a le site web lesdérangeants.com que vous pouvez trouver une foule de ressources pour vous aider dans votre démarrage d'entreprise ou vos activités quotidiennes. N'hésitez pas à nous écrire, que ce soit en commentaire sur l'épisode ou à info@commercialesdérangeants.com. C'était Étienne Crevier à l'animation. On se retrouve pour un prochain épisode la semaine prochaine.
Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!